Good Morning Business, le grand débrief.
Il est 8h42, on est en plein débat sur l'inflation avec nos invités Franck Dixmier, directeur de gestion obligataire d'Alliance Global Investor, Thibaud Dromard, rédacteur en chef à Challenge, et Benaouda Abdedaïm, notre expert international maison. On est en plein débat. On va le recommencer pour vous, ne vous inquiétez pas. Parce qu'effectivement, là, on a quand même Jérôme Powell qui nous dit la peste ou le choléra, le chômage ou l'inflation, j'ai choisi, ça sera du chômage pour avoir moins d'inflation. On va en discuter ensemble, est-ce que c'est le bon choix? Et puis il y a Laure, qui est une militante de l'inflation depuis ce matin, qui nous dit pourquoi pas vivre dans une économie avec 10-15% d'inflation pour éviter le chômage. Je ne suis pas sûr qu'on évite le chômage avec l'inflation, mais on peut en débattre. Peut-être d'abord avec vous, Franck Dixmier, déjà ce choix cornélien du chômage ou de l'inflation, vous feriez le même choix que Jérôme Powell, du chômage plutôt que de l'inflation ?
Je ne l'envie pas. Je ne l'envie pas parce que les banquiers centraux sont quand même dans une situation extrêmement compliquée. Ils ont été lents à la réaction. Il y avait beaucoup de réticence à normaliser les politiques monétaires. Et là, on parle même plus de normalisation des politiques monétaires, on parle de resserrement monétaire. Ouais. Donc on n'est pas du tout dans le même contexte. La Fed a un mandat double.
C'est le
plein emploi et la stabilité des prix. Le plein emploi, on y est aux États-Unis, avec une économie extrêmement résiliente, un emploi qui résiste, un consommateur américain très hédoniste, mais comme toujours, ça à travers l'histoire, ça a toujours été le cas. Donc, qui consomme, qui puise sur son épargne et qui consomme, des services qui continuent à croître, un peu de tension sur le secteur manufacturier, un secteur immobilier qui commence effectivement à payer le prix de taux de plus en plus haut, notamment sur les mortgages, mais globalement. Au niveau de l'emploi, ça va. Donc, le focus, enfin la priorité absolue pour la Fed, et elle a dit, c'est totalement cohérent avec le discours de Jackson Hole, c'est la stabilité des prix. Et pourquoi ? Parce que je pense que ce que craignent réellement les banquiers centraux, c'est un décrochage des anticipations d'inflation et de rentrer dans un mécanisme autoréalisateur où des anticipations plus hautes d'inflation nourrissent l'inflation, donc avec des revendications salariales, etc. Et ça, on l'a vu en avril. En avril, on a eu des anticipations d'inflation qui se sont très très fortement tendues. Et ça a été un électrochoc, à la fois pour la BCE et pour la Fed. Et donc maintenant, le constat, c'est que pour les banquiers centraux, il y a beaucoup moins de risques à en faire plus qu'à en faire moins. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est très très compliqué de remettre l'inflation dans le tube de dentifrice. Quand l'inflation sort du tube, ça nécessite une prescription à la Volcker, donc de mettre des taux d'intérêt très très hauts pour casser la croissance. Alors l'objectif de la Fed, c'est pas casser la croissance, c'est peser sur l'activité. C'est quand même un petit peu différent, on n'en est pas encore là. Peser sur l'activité pour provoquer donc un choc sur l'emploi, pour casser des boucles prix-salaire qu'on voit déjà aux États-Unis. Mmh. Et la Fed d'Atlanta qui publie un indicateur qui est très intéressant, c'est un tracker sur l'évolution des salaires. On est à plus 6,7% sur un an, sur la dernière lecture. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et plus l'inflation s'installe sur des niveaux hauts, plus elle se diffuse dans l'économie. Et c'est aussi le message qui a été envoyé par l'inflation sous-jacente du mois d'août aux États-Unis. On était à plus 6,3% sur l'inflation sous-jacente. Et donc on voit déjà que cette inflation, donc ces prix de l'énergie, etc., s'installe dans l'économie. Et ça, c'est un réel danger.
Benaouda, il y a cette question de la politique. La Fed ne fait pas de politique, elle a un mandat très clair, mais quand on agit sur le chômage, on fait aussi de la politique, et ça a aussi un impact sur les élections futures. Est-ce qu'il y a cette critique aux États-Unis ?
Il y a cette critique aux États-Unis, mais elle n'a absolument rien à voir avec le reste du monde. Parce qu'on se concentre, et c'est normal, sur ce qui se passe à Francfort et à Washington. Mais si vous voyez les réactions à travers le monde, elles sont consternées par la lenteur avec laquelle la Réserve fédérale et, par extension, la Banque centrale européenne ont réagi. Alors, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est le cas. Je ne prendrai qu'un récent éditorial du quotidien de l'économie. Le quotidien de l'économie, c'est le quotidien de l'économie chinoise, directement lié au gouvernement, qui estime que ces deux institutions ont, l'année dernière, pour des raisons politiques, pas pris leur fenêtre d'opportunité pour contenir l'inflation, et qu'en conséquence, par leur inconduite politique, je cite toujours cette, cet éditorial, ça a déclenché un mouvement qui provoque maintenant une récession à l'échelle, qui va provoquer une récession à très grande échelle, à l'échelle mondiale, et qui amène un ensemble de banques centrales à travers le monde dont on ne parle jamais, mais qui à courir derrière. Prenez aujourd'hui la banque centrale d'Afrique du Sud, bientôt celle du Nigeria, puis celle de encore une fois, c'est une minorité à l'échelle de la population mondiale. Je parle de celles qui ne doivent subir, qui n'ont pas eu le choix et qui pourtant ont entamé ce cycle de rattrapage bien avant les grandes institutions monétaires internationales. La Banque centrale du Brésil a commencé bien avant celle-ci.
Thibaut de Robard.
Oui, et ce, alors que les situations sont quand même pas tout à fait les mêmes. L'inflation américaine, c'est une inflation qui est aussi beaucoup liée à une dynamique économique, à une dynamique de l'emploi extrêmement forte. C'est pas tout à fait la même chose en Europe et notamment en France. On a quand même un chômage à 7%. Donc l'augmentation des taux peut avoir des effets un peu divers. Soulignons quand même que ça a quand même eu quand même des premiers effets aux États-Unis, puisque les taux d'emprunt immobilier, premier secteur à être vraiment affecté, ils sont à 6%
sur
30 ans, exactement. Donc on commence à avoir les premiers effets. Mais après, ramener cette politique américaine à l'échelle de notre continent européen n'aurait pas tout à fait les mêmes conséquences.
Franck Dixpier.
La Fed a eu un agenda politique. C'était extrêmement clair à la fin
de
2021.
Ils ont raison, les Chinois, dans cette analyse de l'an dernier.
Mais à la fin 2021, Powell était extrêmement clair. Il regardait les chiffres de l'emploi, satisfait de voir qu'on était proche d'un objectif de plein emploi, mais il citait l'emploi au sein des minorités, qui était encore élevé, l'emploi des jeunes, qui était encore élevé. Donc il y avait un ciblage explicite, qui était totalement aligné en fait sur l'agenda politique de l'administration américaine. Donc oui, la Fed de toute façon endosse un rôle politique.
La question de fond, alors je suis désolée de vous poser le sujet de manière générationnelle, mais moi je n'ai jamais connu l'inflation. À 38 ans, je n'ai jamais connu ce monde-là. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de vivre avec un niveau d'inflation, alors peut-être pas 8%, alors, je ne sais pas si c'est 5 ou si c'est 4, et de ne pas casser pour autant l'outil productif et de créer du chômage. Est-ce qu'on est obligé de prendre cette mesure-là ?
Ça, c'est très intéressant, parce que quand vous regardez l'évolution de la rhétorique des banques centrales sur les deux dernières années, il y a ce souci de revoir un peu les piliers, en fait. La stabilité des prix à 2%, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment justifier d'une manière académique que 2%, c'est exactement le bon chiffre à atteindre ? Donc, les banques centrales, que ce soit la Fed ou la BCE, ont annoncé sur ces dernières années, enfin récemment, une approche beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple, qui les autoriserait à accepter plus d'inflation si c'était en contrepartie d'une inflation qui avait été très basse sur les périodes précédentes. Donc, c'est une réflexion qui est déjà présente au sein des conseils des banques centrales, mais ils peuvent pas le dire. Ils peuvent pas le dire, surtout maintenant. Parce que ce serait déjà que la forward guidance, donc la capacité des banques centrales à guider les anticipations des investisseurs, est extrêmement critiquée. Enfin, ils ont failli. Enfin, on va pas trop les accabler parce que la guerre en Ukraine était quand même le signe noir très très difficile à prévoir, mais il y a eu quand même une certaine complaisance par rapport à un monceau de liquidités qui s'est déversé sur les économies et qu'on n'a pas retiré à temps.
C'est assez intéressant ce que vous disiez, Belaouda, sur cette complaisance occidentale qui retombe en boomerang sur les pays en développement.
Oui, tout à fait. Alors, l'effet dollar sur les devises des émergents est pour certains cataclysmique, et y compris, et c'est une note de lundi de l'économiste en chef pour les marchés émergents de Capital Economics à Londres, pour des États membres de l'OCDE, comme le Chili ou la Colombie, qui certes ne voient pas leurs devises fortement baisser, mais qui ont une dette très libellée, beaucoup libellée en dollars, et qui vont voir non seulement un recul encore plus marqué de leur devise, mais un renchérissement du service de leur dette, c'est-à-dire un remboursement de la dette plus cher, plus coûteux. Et de ce point de vue-là, il y a un effet de ciseau sur lequel ils ne peuvent absolument pas agir, si ce n'est subir ce qui est décidé à Washington.
Thibaut de Romard, on voit qu'il n'y a pas d'inflation heureuse. C'est l'une des enquêtes de Challenge cette semaine sur la tension sociale qui se tend fortement dans de nombreuses entreprises.
Oui, alors si on revient en France, effectivement, le sujet en ce moment est celui des salaires dans beaucoup d'entreprises. Vous savez, il y avait un certain nombre d'accords liés au NAO au premier semestre, 14% de plus d'accord que l'an dernier. Ouais. Mais on était quand même encore en dessous de 9% par rapport à 2019, l'effet gilet jaune. Donc, il y a encore un retard, d'autant que l'inflation n'est plus du tout la même. Donc là, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Bon, bah, il y a des clauses de revoyure qui sont en cours, celles qui avaient prévu que l'inflation serait élevée et qui donc font un deuxième round en ce moment. Et puis celles qui ne l'avaient pas prévu. Et là, c'est là où on voit un certain nombre de tensions, notamment dans l'agroalimentaire, qui est aussi très affectée par la crise énergétique. La grande distribution, effectivement, Carrefour, Casino et même les indépendants.
Le Roi Merlin aussi.
Effectivement, le Roi Merlin avec des tensions sociales assez fortes. Alors, quelles sont les solutions qu'ont les DRH et les entreprises par rapport à cette tension sociale? Bon, il y a la plus douloureuse qui est une augmentation crantée, hein, qui est lourde et qui pèse dans les comptes d'exploitation des entreprises.
Collective, quoi.
Voilà, collective, générale. Et puis, il y a cette possibilité qu'a offert le gouvernement, qui sont cette fameuse prime de partage de la valeur, anciennement prime Macron, et qui permet peut-être de faire un saut sans prendre trop de risques. Et là, ouais, on voit quelques entreprises commencent à s'en emparer. Hein,
ça arrive. Éric Albert, qui était avec nous il y a deux jours, nous disait qu'il faut pas désespérer Billancourt. C'est-à-dire qu'en fait, les salariés ont fait beaucoup d'efforts pendant les confinements, pendant les Covid. Il faut les récompenser. Et peut-être qu'effectivement, les primes exceptionnelles sont, il faut dire la vérité. Il faut dire, bon, cette année, on peut, parce que ça va être bon. 2023, on sait pas.
Voilà. Oui, donc, oui, effectivement. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de voir un peu cette dichotomie, hein, avec ces grandes entreprises, pas toutes, hein, mais une grande partie qui vont devoir partager effectivement les bénéfices, hein, et ceux qui profitent de la crise, mais pas seulement. Et puis, on va voir surtout comment réagissent les PME, les ETI, par rapport à ça. Hein. Celles qui sont très, très dépendantes de la crise énergétique, enfin, très affectées par la crise énergétique, vont avoir des marges de manœuvre qui vont être extrêmement limitées.
On a un gros problème quand même, Thibault, sur les primes. C'est que les primes, c'est bien gentil, c'est un one-shot, ça fait plaisir, mais quand vous allez à la banque, ça n'existe pas.
Oui, c'est sûr.
En fait, en réalité, les salariés ont du mal à appréhender ce mode de récompense, parce qu'en fait,
c'est du court terme.
Oui.
C'est sûr, c'est du court terme. Mais par rapport à des entreprises qui sont empêchées, c'est déjà un premier geste. Psychologiquement, il y a un effet. Ça permet de faire face à quelques dépenses du quotidien qui augmentent fortement. Bon, c'est un outil. Mais il y en a d'autres, hein, des outils. Il y a aussi les primes transport qui peuvent exister. Il y a d'autres. Ouais. Il faut être un peu créatif.
Moi, j'ai une question pour Franck Dixmier qui brûle les lèvres de tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. Qu'est-ce qu'on fait de son argent en ce moment, si on a un peu, si on a de l'épargne? Où est-ce qu'on peut le placer? Parce que là, c'est quand même l'incertitude totale.
Je pense qu'on est vraiment dans une période de transition, hein, à la fois sur les marchés, sur cette fiscal dominance, ça veut dire cette politique budgétaire qui était totalement monétisée par les banques centrales à l'achat. Ça, c'est terminé. C'est terminé, donc on entre dans un monde qui va ressembler en fait au monde qu'on a connu avant toutes ces politiques monétaires extrêmement créatives, où il y aura sans doute moins de croissance potentielle, plus de discipline budgétaire donc. Donc moins de marge de manœuvre, mais peut-être plus de priorités affichées de la part des gouvernements. Sans doute des performances à un chiffre du côté des marchés actions qui vont refléter des croissances potentielles revues à la baisse. Et donc actuellement, faut être long en cash.
Faut être long en cash. Regardez son cash. Faut être long en cash.
Les actions sont encore n'intègrent pas.
Le cash est grignoté par l'inflation, parce que vous avez 100 aujourd'hui. À la fin de l'année, vous n'avez plus 92. En valeur réelle.
Oui, je pense que les actifs réels vont tirer encore une fois leur épingle du jeu. On voit que l'immobilier, notamment, résiste très très bien. Hein.
Ouais, ouais.
Mais enfin, c'est un actif là qui est très très peu liquide.
Bon, voilà, Franck Zixmier, Thibault Dromard et Benaouda Abdaïm, merci à tous les trois pour ce débrief.